Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 5 juillet 2023. Au Burkina Faso, une quinzaine de civils ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés. Dans l'est de la RDC, au moins 8 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque. En Éthiopie, 3 cadres de la police ont été assassinés dans la région de l'Amara. Dans la partie magazine, nous retrouverons le rapport d'Amnesty International dénonçant des crimes de l'armée et des séparatistes armés.
Il y a vraiment une différence entre le discours des autorités camerounaises qui prétendent lutter contre l'impunité et la réalité de l'absence de procédures sérieuses.
Nous retrouverons Fabien Hoffner, chercheur à Amnesty International. En Tunisie, des migrants africains chassés de Sfax après la mort d'un Tunisien. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est attendue demain jeudi à Pékin pour donner un nouvel élan aux relations États-Unis-Chine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, une quinzaine de civils ont été tués aujourd'hui lors d'une attaque de djihadistes présumés dans l'est du pays, ont indiqué des sources sécuritaires locales, évoquant également un départ massif d'habitants fuyant les incursions de groupes armés. L'attaque a eu lieu tôt ce matin à Sorga, dans la province de Nyanya. Un responsable local a mentionné aussi plusieurs blessés. Au moins 8 personnes, dont 5 femmes et 2 enfants, ont été tuées au cours d'une attaque ce mercredi dans un village de l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'indiquent des sources locales. Le point avec Eric Manirakiza.
Vers 1h du matin, 8 civils ont été tués à Bongoussou, dans la province du Nord Kivu, a indiqué sous couvert d'anonymat un membre de la Croix-Rouge locale. Il précise que 4 corps ont été retrouvés dans des toilettes. Un membre de la société civile confirme ce bilan également sous couvert d'anonymat. Il ne précise pas l'identité des assaillants, mais déclare que mardi soir, des éléments du M23 étaient visibles dans la cité. Le baromètre sécuritaire du Kivu, un réseau d'analystes, a déclaré sur son compte Twitter que le M23 est soupçonné d'avoir commis cette attaque contre des civils au cours de la poursuite d'un combattant Nyaruta, CNC, un groupe armé majoritairement Hutu opérant dans la zone. Un responsable administratif du groupement Tongo a déclaré que les éléments du M23 ont fait incursion dans le village de Bungushu et ont massacré la population. En revanche, le M23 a condamné aujourd'hui dans un communiqué des tueries qui ont eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juillet 2023 à Bungushu, Tongo et leurs environs, en les attribuant aux forces du gouvernement de Kinshasa.
Le Kenya a annoncé aujourd'hui qu'il reportait la réouverture prévue de sa frontière avec la Somalie, fermée depuis longtemps après un certain nombre d'attaques meurtrières sur son sol attribuées au groupe militant islamiste Al-Shabaab. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a déclaré que la réouverture progressive des frontières de Mandera, Lamu et Garissa, le long de la frontière avec la Somalie, n'aurait pas lieu comme annoncé au mois de mai. En Éthiopie, 3 cadres de la police de l'Amara, état régional dans le nord du pays, en proie à de récents troubles, ont été tués ces 2 derniers jours par des inconnus. L'annonce est faite par les autorités locales. Yakuba Oudraogu.
Zewudu Tadele, chef de la police du Wereda, dans le district de Dejen, et Worku Chimeles, chef du service de prévention de la criminalité, ont été tués dans l'arrondissement de Kourar le 3 juillet par un groupe armé non identifié. C'est ce qu'indique le service de communication du district, ajoutant qu'un chauffeur en mission avec eux a été blessé. Le chef de la police de la ville de Shewarubit, Abdou Hussein, a aussi été tué par des inconnus, selon le bureau du maire. Un couvre-feu nocturne a été décrété dans la localité à compter de ce mercredi pour une période indéterminée. Le 27 avril, le chef régional du Parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed a été assassiné avec 4 membres de son entourage lors de l'attaque de son convoi dans cette région. La région de l'Amara, dans le nord de l'Éthiopie, connaît des troubles depuis une tentative mi-avril des autorités fédérales de démanteler ses forces spéciales, des unités paramilitaires. Les nationalistes Amara estiment que le gouvernement fédéral veut les désarmer pour affaiblir la région que des conflits territoriaux opposent aux régions voisines du Tigré et de l'Oromia.
La Chambre haute du Parlement éthiopien a donné aujourd'hui à l'unanimité son feu vert à la création d'un 12e État régional appelé Région d'Éthiopie du Sud. Après un récent référendum dans le sud du pays, les habitants des zones concernées avaient été appelés à se prononcer le 6 février sur leur regroupement au sein d'une nouvelle région et s'y étaient très massivement dit favorable. En Tunisie, des dizaines de migrants africains ont été chassés de Sfax. Cette ville dans le centre-est a connu une nouvelle nuit de violence après la mort d'un habitant dans des heurts. Le point avec Nani Talani.
Des centaines d'habitants de Sfax se sont rassemblés dans les rues la nuit dernière pour réclamer le départ immédiat de tous les migrants clandestins. Certains ont bloqué les rues et incendié des pneus pour exprimer leur colère après la mort d'un habitant de 41 ans poignardé lors d'affrontements lundi avec des migrants d'Afrique subsaharienne. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers chassant des migrants sous les acclamations des habitants. Lazare Midi, des urgences d'un hôpital à Sfax, soutient que cet hôpital a accueilli environ 40 migrants, dont des femmes et des enfants. Certains ont été jetés de terrasses, d'autres agressés par des sabres, a-t-il affirmé. La police a amené plusieurs migrants sur le site de la foire de Sfax en attendant leur transfert ailleurs, d'après Romdam Ben Amor, responsable d'une ONG qui suit les questions migratoires. Il ajoute que d'autres migrants ont été conduits vers une zone proche de la frontière libyenne.
Quelques 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique RTSS vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025, ont annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi. Le vaccin RTSS, mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK, a déjà été administré à plus d'1,7 million d'enfants dans 3 pays africains, Ghana, Kenya et Malawi, dans le cadre d'un programme pilote. Il s'est avéré sûr et efficace, entraînant une réduction substantielle des formes graves du paludisme et une baisse des décès d'enfants, a indiqué le chef de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. En conférence de presse, près de 30 pays africains ont indiqué vouloir recevoir des doses.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui la fin de son opération militaire en Cisjordanie occupée, peu après avoir mené des frappes aériennes sur Gaza en réponse à des tirs de roquettes. 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l'opération. 100 Palestiniens ont été blessés, selon le ministère palestinien de la Santé. Cette opération militaire la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, depuis 1967, avait été lancée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, est en route pour Pékin dans le cadre des efforts déployés par l'administration Biden pour dégeler les relations avec la Chine. Au menu de cette visite, des rencontres avec des responsables chinois et des entreprises américaines qui font des affaires en Chine. Alexandrine Olugnon.
L'objectif de cette visite est d'approfondir et d'accroître la fréquence des communications entre les États-Unis et la Chine, selon un communiqué du département du Trésor. Le voyage de 3 jours devrait comprendre des réunions de haut niveau avec des responsables chinois, offrant aux deux parties l'occasion de s'engager sur une série de questions litigieuses, contribuant à des relations économiques tendues. Avant son départ, la secrétaire au Trésor s'est entretenue hier avec l'ambassadeur de Chine aux États-Unis. Ce dernier a déclaré qu'il espérait que Pékin et Washington se rencontreraient à mi-chemin lors des entretiens avec Janet Yellen. Les relations entre la Chine et les États-Unis se sont notoirement dégradées à cause de différends commerciaux sur fond de rivalité technologique. L'administration Biden a imposé l'an dernier des restrictions à l'exportation vers la Chine de semi-conducteurs et composantes technologiques américaines.
Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, présents à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, n'ont pas observé de traces de mines ou d'explosifs sur le site contrôlé par les Russes, mais il leur faudrait un accès élargi pour en être certain, a déclaré ce mercredi l'agence onusienne. L'Ukraine a appelé aujourd'hui la communauté internationale à prendre des mesures immédiates face aux risques dans cette centrale nucléaire contrôlée par la Russie. Les deux camps s'accusent s'accusant mutuellement d'une provocation imminente. Le Canada, la Suède, l'Ukraine et la Grande-Bretagne ont demandé à la Cour internationale de justice de poursuivre l'Iran pour avoir abattu un avion de ligne ukrainien en 2020, coûtant la vie aux 176 personnes qui se trouvaient à bord selon des documents juridiques déposés ce mercredi. Les forces armées iraniennes ont abattu l'appareil de la compagnie Ukraine International Airlines le 8 janvier 2020 après son décollage de l'aéroport de Téhéran, dans ce que les autorités iraniennes ont qualifié à l'époque d'erreur désastreuse. La plupart des victimes du crash étaient des ressortissants de quatre pays qui ont créé un groupe de coordination visant à demander des comptes à l'Iran. Et puis, des pluies torrentielles ont tué 15 personnes dans la ville chinoise de Chongqing, dans le sud-ouest du pays. Des inondations ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Mohamedou Oufa.
La compagnie chinoise CMOC a commencé à évacuer sa réserve de cuivre et de cobalt d'une valeur de quelque 2 milliards de dollars qui s'est accumulée dans le sud-est de la RDC. Les produits ont été bloqués pendant plus de 9 mois en raison d'un différend sur les redevances entre le groupe chinois, propriétaire à 80% de la mine, et son partenaire congolais de co-entreprise, la société minière publique Gécamines. L'ONU a appelé mercredi à soutenir d'urgence les pays en développement afin qu'ils attirent des investissements massifs pour leur transition verte. Ces pays ont besoin d'investissements dans les énergies renouvelables à hauteur d'environ 1 700 milliards de dollars par an, mais n'ont attiré que 544 milliards de dollars d'investissements directs étrangers dans les énergies propres en 2022, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le Ghana a rouvert mardi le parc commémoratif de Kwame Nkrumah, un patrimoine culturel majeur dans la capitale Accra. Le gouvernement ghanéen prévoit de faire de cet endroit l'une des meilleures attractions touristiques et patrimoniales d'Afrique de l'Ouest, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il espère que le parc, qui attirait quelque 90 000 visiteurs par an avant la rénovation, sera en mesure d'attirer plus d'un million de touristes par an après la rénovation.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Maroc fera face à l'Égypte en finale de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, en demi-finale hier mardi, l'Égypte a disposé de la Guinée 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Cheata très tôt dès la 8e minute. Dans la seconde demi-finale, le Maroc et le Mali se sont départagés au tir au but après un score de 1-1. Le pays hôte, le Maroc, s'est imposé par 4 tirs réussis contre 3 pour les Aiglons. En finale ce samedi, les Égyptiens tenteront de conserver leur trophée devant les Marocains et leur public bien avant. Vendredi, le Mali et la Guinée se disputeront la troisième place de cette CAN des moins de 23 ans. Les deux finalistes arrachent du même coup leur ticket pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Luis Enrique nommé entraîneur du PSG.
Le Paris Saint-Germain a annoncé la nomination jusqu'en 2025 de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, en remplacement de Christophe Galtier pour le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. C'est une nouvelle ère qui commence avec le technicien espagnol.
C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle ambition de la façon de jouer, le style du jeu. On a un coach, un des meilleurs coachs au monde. Pas parce que qu'est-ce qu'il a gagné, mais comment il joue le foot. Le style de foot.
Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. Luis Enrique devient le 8e entraîneur de cette formation française depuis l'arrivée du fonds Qatari à la tête du club en 2011. La gestion du cas Kylian Mbappé constituera son premier gros chantier, alors que l'avenir flou de la superstar parisienne risque d'être le feuilleton de l'été. Nasser Al-Khelaifi, président du PSG.
La position est très claire. Je vois chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuit, c'est impossible. C'est un club français, c'est sans payer, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un a changé sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser le meilleur joueur au monde, partir gratuit, c'est très clair.
Nasser Al-Khelaifi, président du PSG.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les civils dans l'ouest du Cameroun sont souvent victimes d'atrocités commises par les forces de l'ordre et les séparatistes armés dans cette région anglophone. C'est ce qui ressort d'un rapport d'Amnesty International intitulé « Avec ou contre nous ». Yacouba Ouedraogo a joint à Paris Fabien Hoffner, chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Nous avons documenté essentiellement des violations commises par les forces armées camerounaises et des crimes commis par les groupes armés séparatistes. Il s'agit essentiellement d'homicides illégaux, d'incendies de maisons, un petit peu en punition collective, contre les personnes soupçonnées de collaborer avec les groupes armés séparatistes ou collaborer avec les forces armées camerounaises. Nous avons également documenté des kidnappings et également des viols et des violences sexuelles commises spécifiquement par les forces armées camerounaises. Pas évidemment que des viols et des violences sexuelles n'ont pas été commises également par les groupes armés séparatistes.
Vous évoquez notamment le cas des populations Peul, Ombororo. Qu'en est-il exactement?
Nous avons souhaité faire un focus sur la région du Nord-Ouest et au sein de cette région du Nord-Ouest, nous avons souhaité faire un focus particulier sur les crimes dont ont été victimes les Peul Mbororo et également mentionner le fait que certaines milices composées notamment de même Peul Mbororo se sont également constituées et ont collaboré avec les forces armées camerounaises. Nous sommes spécifiquement intéressés à cette situation dans le Nord-Ouest avec des groupes armés séparatistes qui très tôt s'en sont pris à des communautés Peul un petit peu isolées, dans les mêmes zones isolées où les groupes armés séparatistes se cachaient. Et ces communautés ont été ciblées, notamment peut-être qu'elles possédaient certains troupeaux, disposaient de certaines ressources qui pouvaient être utiles aux groupes armés séparatistes. Et ce que nous avons documenté, c'est que dans bien des cas, ces violences se sont accompagnées de discours de violence, de discours inflammatoire, expliquant que ces communautés Peul Mbororo étaient des étrangers et qu'elles n'avaient rien à faire sur les terres de l'Ambazonie, territoire que revendiquent les groupes armés séparatistes.
Vous avez demandé à ce que les autorités camerounaises enquêtent sur ces situations-là. Vous avez dit également dans le rapport que plusieurs demandes d'interview ou d'explications avec des milices camerounaises sont restées lettres mortes. Est-ce que vous y croyez?
Ce que nous avons expliqué, c'est que dans plusieurs cas, les autorités camerounaises ont reconnu que des membres des forces armées avaient commis des homicides illégaux. Il y a eu plusieurs communiqués, notamment du ministre de la Défense. Ce que nous disons, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'annonces, un certain nombre de postures, mais que malheureusement, selon nos informations, dans bien des cas, ces annonces n'ont pas été suivies d'enquêtes concrètes et de traductions concrètes par des mécanismes judiciaires de la lutte contre l'impunité. On se souvient du massacre de Ngarbou en 2020, au cours duquel 21 personnes avaient été tuées par des membres de l'armée camerounaise en collaboration avec des milices. Le procès ouvert il y a 2 ans, et 2 ans après, nous avons très peu d'informations, et les seules informations que nous avons montrent qu'il y a une totale stagnation. Nous avons également constaté, par exemple, avec des cas comme la mort du journaliste Samuel Ouazizi, que là encore, il y a eu des annonces, mais que rien n'a été fait. On a évoqué un temps l'existence d'une enquête dont personne n'a jamais vu la couleur. Donc il y a vraiment une différence entre le discours des autorités camerounaises qui prétendent lutter contre l'impunité et la réalité de l'absence de procédures sérieuses. Et comme c'est le cas dans la plupart de nos publications, nous avons envoyé une demande d'information aux autorités camerounaises pour en savoir plus sur ces procès. Malheureusement, nous n'avons pas reçu de réponse.
Fabien Hoffner, chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Au Mali, les veuves et orphelins des militaires tombés au combat peinent à survivre, malgré quelques efforts du gouvernement. Notre correspondant, Lamissa Sangaré, a rencontré un groupe de veuves regroupés au sein d'une association à Kati, en périphérie de Bamako. Reportage.
Ce soir-là, dans la maison familiale de Geneva Keita, responsable de l'Association pour la défense des veuves militaires et paramilitaires à Kati, on y trouve quelques femmes. En temps normal, elles sont près de 80 femmes à se réunir pour discuter de leurs problèmes et donner leurs cotisations. Oumou Fall est l'adjointe à la responsable de l'association.
Chaque les 5, nous faisons une cotisation entre nous les 5 de chaque mois. Ça fait 2500 francs par personne. Cela nous aide énormément.
Ces rencontres mensuelles sont des moments de jouissance pour bon nombre d'entre elles. Djeneba Keïta, la première responsable de l'association, nous explique leur quotidien.
Celles-ci sont obligées d'épuiser l'eau pour en vendre dans les sentiers de construction. Certaines ramassent du gravier et d'autres des vieux bidons pour vendre de l'eau. C'est ce qui leur permet d'entretenir les enfants. Elles préfèrent cela au débauche. Vivre, c'est vivre dans un nouveau monde. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'il faut vendre sa dignité.
Elle se voit dans l'obligation de mener ses petites activités selon Adam Mariko.
Nous sommes obligés de faire ces petits travaux car la pension ne suffit pas pour tout faire. Moi qui vous parle, je ne dépense même pas 30 000 francs CFA en pension. Imaginez la prise en charge des frais de scolarité, des ordonnances et autres dépenses de la famille avec 30 000 francs CFA. Ce n'est vraiment pas possible.
L'avènement de la transition au Mali a été une aubaine pour ces femmes. Djeneba Keïta.
J'avoue que nous avons assez souffert dans le temps, mais la transition nous a vraiment soulagés. Nous remercions Dieu car de nos jours, des convois militaires sortent rarement sur des mines. Nous, veuves, nous étions carrément exclus de la société. On nous traitait de tout, sorcières, prostituées et j'en passe. Notre situation s'est considérablement améliorée ces temps-ci. La seule chose, présentement, c'est le chômage de nos enfants.
La prise en charge des orphelins de guerre s'est faite à travers un programme spécial dénommé Pupille de la Nation. Ce programme est géré par une ONG du nom de l'ONU Pima. Les veuves s'en félicitent.
Je suis vraiment soulagée depuis que j'ai commencé à travailler avec l'ONU Pima. C'est une ONG qui soutient les pupilles de la nation. Chaque enfant perçoit de cette ONG une somme forfaitaire de 200 000 francs CFA le trimestre pour les petits besoins.
Adam Mariko a jugé cet effort insuffisant.
Le programme sur les pupilles de la nation ne concerne que les orphelins de guerre, alors que certains militaires meurent de maladies à la maison. C'est injuste que leurs ayants droit ne bénéficient pas du soutien.
En dépit de ces efforts de la première responsable de l'association et des quelques contributions de l'État du Mali, ces veuves se disent délaissées et même victimes de tentatives d'instrumentalisation par des individus mal intentionnés. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la Fondation Lumière a organisé une journée de sensibilisation des motocyclistes à Aniama, dans la banlieue d'Abidjan. Les engins à deux roues et les tricycles sont souvent mêlés à des accidents de la route. Le reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
La campagne est dénommée « Mon casque, c'est ma vie ». 1500 casques ont été offerts aux motocyclistes qui sont souvent impliqués dans les accidents de la circulation et certains perdent la vie en conduisant sans casque.
Sensibiliser la jeunesse par rapport au port du casque parce qu'on a eu beaucoup d'accidents.
Nous sortons en campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour communiquer un peu avec les acteurs de la moto. Pour leur dire que le port du casque est obligatoire. Il faut avoir les pièces afférentes de la moto pour pouvoir circuler. Parce qu'on trouve des enfants qui n'ont même pas l'âge de 15 ans qui conduisent. Ils ne portent pas de casque.
Pour notre propre sécurité, c'est primordial. Parce que le casque, il est là pour te protéger, protéger ta vie. Lorsque tu tombes, tu peux avoir un choc à la tête. Mais si le casque, il est là, le helmet, il est là, il te protège. Il protège ta tête des commotions cérébrales.
L'opération a sillonné les grandes artères de la ville d'Aniama en partant du carrefour Poto. Yacouba Kone et Drissa Traoré, deux responsables du quartier.
Je tenais à vraiment dire merci beaucoup à Fatim Bamba qui pense vraiment aux citoyens, aux habitants d'Aniama en faisant ce geste.
Agent de police municipale, Lassina Dosso relate ce à quoi les agents sont confrontés.
Et à chaque fois, quand on arrête les cyclistes ou les motocyclistes, ils essaient de nous échapper. Et là, c'est très difficile. Souvent, il y en a qui sont en règle, mais il y en a pas de casque. Ils ne portent même pas de casque. Puis, ils transportent des personnes derrière. C'est un peu difficile pour nous.
Karamoko Moussa est membre de l'association des motocyclistes.
Nous souhaiterons que les motocyclistes de Côte d'Ivoire se comportent bien vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des hommes en tenue. Les conducteurs de tricycles qui sont nombreux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dont le ministère même interdit les tricycles bagages et les tricycles transport sur les grands axes. Cela est normal.
Dame Fatima Bamba, la présidente de la Fondation Lumière qui a lancé cette campagne.
Nous avons décidé d'accompagner le président pour sensibiliser la jeunesse à Niamey par rapport au port du casque et puis dire stop à l'incivisme. Nous avons la police et la gendarmerie qui font vraiment beaucoup pour la commune d'Niamey. Pourquoi ne pas aussi leur donner des casques pour pouvoir faire leur travail correctement? C'est pour ça qu'on a pensé à la police, on a pensé au GMI, on a pensé à la gendarmerie.
Le port du casque, le respect du code de la route et surtout la prudence peuvent parfois aider à sauver la vie des motocyclistes en cette période pluvieuse. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les Burundais ont réagi avec peu d'enthousiasme après la mise en circulation de nouveaux billets de 5 000 et 10 000 francs burundais, car beaucoup n'ont pas de compte bancaire. Pour Faustin Ndikumana, économiste et président du groupe de réflexion PARSEM, c'est la raison invoquée par les autorités en introduisant ces nouveaux billets pour coincer ceux qui gardent leur argent chez eux hors du circuit bancaire pour les obliger à les remettre en circulation. Nani Talani.
Le souci et la réticence de la plupart des Burundais se justifient par le fait que nombreux n'ont pas de compte bancaire et ont thésaurisé des montants petits ou colossaux chez eux. Dans ces conditions, il leur est difficile, voire impossible, de changer les anciens billets qu'ils détiennent. Chantal Mugisha est vendeuse au marché Kotebu à Bujumbura.
Lorsque vous n'avez pas de compte en banque, vos anciens billets ne sont pas remplacés. C'est impossible. Ils nous obligent à ouvrir des comptes à la banque alors que nous n'avons aucun moyen d'alimenter un compte.
Ces Burundais, sans compte bancaire et n'ayant pas pu remplacer leur argent par de nouveaux billets, sont confrontés à des difficultés pendant les courses. C'est le souci de Lionel Nziza, habitant de Bujumbura.
J'ai ici une somme d'anciens billets de 170 000 francs burundais, environ 54,2 000 euros. Je voulais faire de l'essence à Gatumba et j'ai entendu dire que si je n'avais pas de nouvelles coupures, ils ne pouvaient pas me donner de l'essence. Alors je me demande comment déposer ces billets sur le compte bancaire de mon patron et je serais obligé de rester à Bujumbura. Je vis à l'intérieur du pays.
D'autres Burundais s'inquiètent de perdre leur argent car le délai pour changer les anciens billets s'est déjà écoulé. Ils demandent au gouvernement de prolonger ce délai.
Nous avons encore ces anciennes factures. Si nous voulons acheter quelque chose, nous apportons les anciennes coupures, mais pour le moment, les commerçants refusent ces factures et nous les comprenons bien car le temps que nous avions pour le remplacement est écoulé. Que va-t-on faire de ces coupures?
Parmi eux, Freydiane Mukeshimana, vendeuse de rue à Bujumbura.
Nous demandons au gouvernement d'augmenter au moins le délai de mise en circulation de ces nouveaux projets de loi.
Faustin Ndikumana, économiste, président du groupe de réflexion PARSEM, estime que les autorités doivent prendre des mesures d'accompagnement.
Nous avons une économie à 70% informelle, ce qui fait que les gens peuvent même ne pas tenir des comptes bancaires. Le taux d'inclusion bancaire est faible. Le taux de bancarisation est faible. Les services financiers au Burundi, des fois, ne sont pas fiables. Et il y a beaucoup de gens sur la menthe que les services bancaires au Burundi font perdre du temps. Il y a des gens qui ont tendance même à continuer à faire des affaires, à en garder l'argent chez soi, sous motif de rapidité des affaires.
Faustin Ndikumana estime que les autorités burundaises doivent en profiter pour éduquer sur la thésaurisation qui diminue l'argent liquide en circulation. Il rappelle que l'économie du Burundi est à 70% informelle, ce qui fait que les gens peuvent même ne pas détenir de compte bancaire. Le taux d'inclusion bancaire et de bancarisation est faible. Parfois, les services financiers ne sont pas fiables. D'après lui, beaucoup de gens se lamentent que les services bancaires burundais font perdre du temps aux gens.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Josel Mauritain. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.